podcast de Radio Vatican.
Une victoire pour le Parti républicain en Arménie. Avec près de 50% des voix, le parti au pouvoir du président Serge Sarkissian a largement remporté les législatives qui se tenaient ce dimanche 2 avril. L'opposition a immédiatement dénoncé des fraudes. Le lendemain, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a dénoncé aussi des irrégularités. Selon les résultats de la commission électorale, 4 partis se partageront les 101 sièges du Parlement. Un Parlement aujourd'hui renforcé. Ces législatives sont les premières organisées en Arménie depuis le référendum de décembre 2015, date du lancement d'une réforme constitutionnelle qui doit instaurer un régime parlementaire. Cette victoire du parti du président Sarkissian est donc surtout celle du premier ministre Karen Karapetian. Gaïds Minassian est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique à Sciences Po Paris, politologue spécialiste de l'Arménie. Il explique ce que révèlent ces résultats.
Ça dit une forme de continuité. Le scrutin a conforté le parti, la majorité sortante, qui n'avait pas la majorité absolue, mais qui cette fois-ci l'aurait. Ça dit un ras-le-bol de la communauté d'électeurs, parce que le taux de participation n'est pas très élevé, est à 60%, donc il y a une forme de désaffection, de défaillance, de méfiance, de défiance à l'égard des autorités. Et ça dit aussi un élément sur la paix, puisque c'est l'élément central, la paix et le développement, mais restons d'abord sur la paix, puisque dans cette nouvelle configuration, on passe d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire, eh bien les électeurs arméniens donnent leur confiance, s'il en reste, à cette majorité sortante qui veut un dialogue avec l'Azerbaïdjan et qui veut poursuivre les négociations autour de la question du Haut-Karabakh. Et puis, il y a aussi des fortes attentes. Je pense que dans ce vote, on a plus voté pour l'actuel Premier ministre Karen Karapetian, qui porte un nouvel espoir, qui n'a pas la langue de bois, qui joue la transparence, contrairement aux leaders politiques traditionnels en Arménie, en place depuis 25-30 ans. Lui, là, il propose une autre musique aux électeurs, et ça plaît. Je pense que une part de la victoire du Parti républicain revient à ce Premier ministre sortant.
Sur quel sujet, par exemple, le Premier ministre a fait campagne pour réussir à convaincre les électeurs ?
Par exemple, le Premier ministre, qui n'était pas membre du Parti républicain et qui en est devenu au moment de la campagne, est beaucoup plus transparent en termes de lutte contre la corruption, de capacité ou d'incapacité, de compétence ou d'incompétence des ministres. Il n'a pas hésité à les remettre publiquement en place. Et donc ça plaît aux gens parce qu'ils s'aperçoivent que leur parole est entendue et qu'il n'y a pas le pouvoir d'un côté, les électeurs de l'autre. Il a tenu la parole de la vérité, la parole de la transparence. Maintenant, il faut donner des résultats. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé l'année dernière avec la guerre des 4 jours, dont on commémore le premier anniversaire là, puisque c'était entre le 2 et le 5 avril, eh bien, lui est arrivé et il y a une forme de rupture. Comme si les Arméniens, alors l'ensemble des corps sociaux arméniens avaient pris conscience qu'on ne pouvait plus diriger le pays comme jusqu'à maintenant, comme jusqu'à il y a un an. Et Karapetian incarne ça. Et le Parti républicain a réussi, sur le coup, avec Karapetian, à donner un nouvel espoir. Mais jusqu'où faut attendre les premiers résultats concrets en termes de croissance économique, parce que c'est le grand enjeu, c'est ça, c'est à la fois la paix et le retour de la croissance.
Est-ce que c'est un défi que le nouveau Parlement, en plus aujourd'hui, avec ce nouveau régime parlementaire, peut relever ?
Disons, comme on passe en plus de 131 sièges à 101 sièges, donc on va aller vers une grande efficacité en termes de processus de loi, on peut s'attendre quand même à une forme de, non pas de nouvel espoir qui va se traduire tout de suite par des résultats, mais de la fin d'un cycle d'incompétence, et d'un cycle d'indifférence et d'un cycle d'immobilisme. On peut s'attendre à quelque chose de nouveau.
Parce qu'à la base, quel était l'objectif de changer le régime de l'Arménie ?
Il y avait plusieurs facteurs. Le premier, le président sortant, Serge Sarkissian, ne pouvant pas faire plus d'un troisième mandat selon la Constitution, donc s'est dit que ça vaudrait peut-être le coup de transformer le régime pour lui assurer une forme de pouvoir, de continuité. Mais dans cet argument-là, qui est un argument défendu par l'opposition, il y a un hic, c'est qu'on ne sait pas ce que va faire Serge Sarkissian. Est-ce qu'il va rester président de la République selon ce nouveau régime ? Il ne faut pas être membre d'un parti, donc ce n'est pas la solution. Est-ce qu'il va redevenir Premier ministre ? Ça m'étonnerait parce que l'actuel lui apporte plutôt satisfaction, et notamment auprès des électeurs, mais bon, on ne sait jamais. Alors, est-ce qu'il va faire autre chose ? Je ne sais pas. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'était que la vie politique tournait trop autour du président de la République et ça polarisait un petit peu trop l'attention sur un scrutin qui pouvait porter atteinte à la paix civile et à l'ordre social. Et ça parce qu'en 2008, il y avait des affrontements, il y avait même eu 10 morts. Donc si vous voulez, les partis politiques se sont dit que pour assurer une forme de stabilité, il fallait revenir à un régime parlementaire. Mais le problème, c'est que on prive les électeurs arméniens d'un scrutin au suffrage universel direct, puisqu'il n'y aura plus de présidentiel au suffrage universel, il y aura un scrutin censitaire, ce seront les parlementaires qui éliront les prochains présidents l'année prochaine. On aurait pu compenser cette perte en termes d'apprentissage de la démocratie par la création d'une nouvelle chambre, par exemple un Sénat, une deuxième chambre élue au suffrage universel, qui aurait permis non pas de perdre un scrutin, mais de transformer, de renforcer le pouvoir du Parlement. Et donc, on est dans une situation un petit peu ambiguë aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, on veut jouer à fond la carte européenne, puisque l'Arménie va signer un accord d'association à minima avec Bruxelles. On veut jouer la carte de la démocratisation des institutions, de la société, de l'État, etc. Et en même temps, on se retire un scrutin au suffrage universel direct. Ensuite, il y avait donc une volonté. Alors, est-ce qu'il y a une main russe dans cette affaire? Je ne sais pas. Mais la Russie ne veut pas trop voir de régime semi-présidentiel dans son giron, donc peut-être que ça fait comprendre à l'Arménie que ce serait bien de passer à un régime parlementaire. Et peut-être que l'Arménie y a vu une forme de respect de la tradition arménienne où on n'aime pas trop les pouvoirs autoritaires forts, mais on préfère les pouvoirs conformistes, c'est-à-dire une sorte d'égalité entre les différentes compositions, formations politiques.
Et concrètement, pour les Arméniens qui sont surtout préoccupés par les questions économiques quotidiennes, qu'est-ce que ça peut changer pour eux d'avoir ce régime-là ?
À vrai dire, pas grand-chose, ça dépend de la qualité des élus. Maintenant, le régime est un régime qui est stabilisé, puisque le Parti républicain a gagné la majorité absolue. Avec 49% des voix, ils ont à peu près 54 ou 55% des sièges, donc ils sont tranquilles. Il y a quelque chose de nouveau, c'est peut-être le fait que l'homme fort devient le Premier ministre, et donc il sera plus sollicité par la société et les élus. Il devra rendre plus facilement compte à l'opposition, au Parlement. Maintenant, il aurait été plus facile pour la transparence, la démocratisation et peut-être pour le bénéfice des électeurs, des citoyens, de voir un régime, un Parlement sans majorité absolue pour un seul parti. Ça, ça aurait été encore plus intéressant.
Juste pour conclure, certains voyaient dans ces législatives un test pour la démocratie arménienne. Pourquoi est-ce que ce test a été réussi ?
Alors, je ne sais pas encore si on peut parler de test réussi. Il y a eu quand même pas mal de fraudes. En fait, ce qui a fait ressortir ce scrutin, parce que le gouvernement arménien, comme ils veulent changer les choses, et ça, je pense qu'il faut leur donner du crédit de vouloir changer. Le problème, c'est est-ce qu'on fait du neuf avec du vieux, parce qu'ils sont en place depuis à peu près 15-20 ans. Donc, ça, on a du mal à le prendre pour des gens crédibles. Mais bon, admettons qu'on leur donne un dernier espoir de changement. Ce qui s'est passé dans ce scrutin, c'est qu'ils ont modifié, perfectionné la transparence. Et c'est peut-être ce perfectionnement de transparence qui a fait ressortir plus de fraudes. Mais est-ce que les fraudes sont de nature à changer les résultats du scrutin ? Je ne sais pas. C'est encore trop tôt pour le dire. Mais il y a eu des actes d'irrégularité qui ont été enregistrés ici ou là, à peu près 300, je crois. Le véritable enjeu était à la fois de démocratiser davantage le régime, et donc les scrutins, par rapport à l'Union européenne, par rapport aux États-Unis, de se démarquer aussi dans ce registre-là, de se démarquer des pays voisins, comme l'Azerbaïdjan ou comme la Géorgie, d'être une sorte de bon élève pour Bruxelles. Ensuite, d'assurer une forme de paix sociale, parce qu'on sait très bien que plus on se démocratise, plus on assure une paix sociale. La paix également renvoie à la question du Haut-Karabakh, donc d'assurer une forme de continuité dans les négociations et ne pas être dans un blocage ou dans une fracture, une rupture avec le processus. Et le troisième, et surtout, c'est le développement, ça veut dire développement économique. Alors, une lutte contre la corruption qui devrait être plus efficace. Et aussi, il y a des grands perdants quand même dans cette élection, à commencer par le premier président de la République, Levon Terpetrossian, dont son alliance fait à même pas 2%, ce qui est un terrible échec, c'est-à-dire que c'est la fin pour lui de sa carrière politique. Mais c'est aussi un revers pour trois autres personnages politiques qui ont compté. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Rafi Ovanessian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, plus tard, entre 1998 et 2008, Vartan Voskhanian, et l'ancien ministre de la Défense, Serhan Ohanian, jusqu'aux années 2015, qui, eux, dans une coalition qu'on appelait Oro, pour les initiales des trois noms, prénoms, ont réuni 2 ou 3% des voix, c'est-à-dire 3 fois rien, c'est-à-dire ce qui est terrible. Ça veut dire qu'on tourne la page aussi. Donc, on a l'impression que les électeurs arméniens ont un petit peu importé le phénomène mondial du dégage, du dégagisme, et on fait comprendre, non pas au pouvoir sortant, mais à une certaine génération, qu'il fallait partir. Je crois que le fait d'avoir mis, et j'insiste là-dessus, le fait d'avoir mis Garen Garabedian, qui est une nouvelle génération, qui n'a même pas la cinquantaine, qui est formée à l'école occidentale, mais qui est quand même plutôt sensible au rapport avec la Russie, mais qui est assez pro-européen, eh bien, je pense que ça a apporté du neuf et du crédit à la campagne des Républicains. Donc voilà le véritable enjeu, l'idée de transformer l'Arménie, de sortir du post-soviétisme, quelque part.
Des propos recueillis par Blandine Hugonnet.